boutique a vu le jour rue Paul Doumer à Arras. L'œil écoute est une galerie de curiosités visuelles qui mêle meubles, design et objets déco, mais qui réserve aussi, et surtout en ce mois de mai, de nombreuses découvertes autour du pré-cinéma et de la photographie. L'œil écoute organise sa première exposition, cinéma et photos s'exposent, à voir jusqu'au 27 mai avec des projections, des ateliers et de fantastiques objets exposés. Rencontre avec Alain Bessaha, le gérant, accompagné de Simon Valin, stagiaire à la boutique.
En fait, moi j'ai vécu à Arras entre 2017 et 2020. J'ai travaillé ici dans un service public, je suis reparti à Paris pendant 2 ans et en fait, je crois que je suis un peu tombé amoureux de la ville. Donc je suis revenu en 2022 et j'avais eu l'idée, donc quand j'étais en poste ici entre 2017 et 2020, comme j'ai une collection d'appareils autour du cinéma, je m'étais dit que peut-être un jour je pourrais faire une activité autour de ça. Alors j'ai pas une idée très précise, puis ça a mûri au cours de l'année 2022 et je me suis dit que j'aimerais ouvrir un magasin. Donc au départ je disais pas magasin, j'étais un peu plus prétentieux, je disais galerie, bon, après, donc c'est un magasin. Et c'est un lieu que j'ai ouvert en octobre dernier. Alors autour de la thématique de l'image, quand même, qui est une thématique forte du magasin, ou alors galerie de curiosité visuelle. Donc autour du cinéma, du pré-cinéma, de l'image imprimée, de l'image projetée. Ça peut être des tapisseries, ça peut être des lithographies, il y a des gravures, il y a des tableaux. Et autour du design, donc des meubles. Le point de départ, c'est une collection d'appareils de cinéma, et puis autour de ça, les questions liées à l'image et au design.
Et d'où vient cette passion pour le design et le cinéma? Est-ce que tu as toujours baigné dedans ou c'est apparu un peu d'un coup?
Alors design, non, ça, je n'ai pas baigné dedans. Le cinéma amateur, j'ai commencé à faire mes premiers films Super 8, j'avais 12-13 ans. Et j'ai commencé à filmer mon premier film, je l'ai fait en Pologne en 83. Et donc ça, c'était un premier film de famille. J'ai continué à faire pas mal de films jusqu'à la fin des années 90. Après, je me suis un peu arrêté et j'ai repris. Récemment, là, j'ai fait un film d'un mariage d'amis à Paris en février, par exemple.
Question toute simple, mais comment tu trouves tous ces objets?
Par des brocantes, des braderies, ça peut être des ventes aux enchères lorsque les objets sont rares. Mais c'est beaucoup de braderies, beaucoup de brocantes, beaucoup de collectionneurs et un peu de ventes aux enchères.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que tu as ici, ou est-ce que tous les deux, vous pouvez me dire les trésors que vous préférez?
Il y a un appareil que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Poliorama, qui est un appareil de 1850, qui est rare, et que j'aime beaucoup parce que c'est un petit objet très modeste, qui est à la fois en bois, en papier, en carton, et qui permet de voir des vues en version jour et nuit. En fait, donc le Poliorama, c'est une boîte, et on regarde dans cette boîte, et après, avec un jeu de clapet, on a une gravure en version jour, et puis en fermant un clapet, en mettant de la lumière, on a la même gravure version nuit. Et donc là, j'ai des vues de 1850 de Londres, j'ai des vues de Paris. Et ça, pour moi, c'est la petite merveille. Alors, j'ai mis très très longtemps à trouver cet appareil. J'ai mis bien une vingtaine d'années.
T'es tombé dessus par hasard ou tu le recherchais précisément?
Je suis tombé par hasard sur des vues de Poliorama chez un antiquaire à Avignon. En fait, il ne savait pas ce qu'il vendait. Donc, il vendait des gravures de vues de Paris, des jolies gravures. Et il pensait que c'était juste des gravures. Sauf que je savais que c'était autre chose que des gravures. Donc, je lui ai acheté des gravures pour le prix de Poliorama. C'est-à-dire en fait 10 fois moins que le prix. Donc j'étais content de faire cette petite découverte à Avignon. Et après, la boîte, je l'ai trouvée grâce à une alerte sur une vente aux enchères. C'est un objet qui est quasiment introuvable, que j'ai vu une fois dans un musée, mais qui est tellement fragile, puis qui est vieux.
Moi, ma pépite, ça serait des appareils stéréoscopiques. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir cette perception en 3D des photos dans l'appareil. Je trouve ça incroyable. Je pensais pas que, avant d'en découvrir dans la boutique, je connaissais pas du tout cet appareil. La première fois, ça m'a vachement impressionné. Bon, il y a pas mal de vues de la Première Guerre mondiale, etc. Notamment des vues aussi de la place des héros complètement démolie par les bombardements. Donc non, c'est vraiment des belles images. Et c'est un beau mobilier.
Voilà. Selon vous, pourquoi c'est important de garder des traces du passé comme ça?
J'aime bien le fait de conserver des choses dans leur matérialité, d'essayer de les conserver au maximum, mais j'estime que si des choses doivent disparaître par rapport au temps, etc., c'est naturel.
Ça dépend ce qu'on appelle Enfin, ce qu'on conserve, ce qu'on collectionne. Moi, les appareils que je collectionne autour du cinéma, donc les lanternes magiques, les caméras de cinéma, quels que soient les formats, et les projecteurs de cinéma. D'abord, je trouve que esthétiquement, c'est super beau. Donc, j'ai pas une réflexion sur pourquoi est-ce que je conserve et pourquoi est-ce que je collectionne. C'est d'abord juste un plaisir, en fait. Le plaisir d'avoir des objets que moi, je trouve beaux. Mais quand je vois une caméra des années 1915, petite pâtée, donc une petite marque française des années 20, bah, je trouve qu'esthétiquement, c'est des beaux objets en métal, en cuir. Ils ont un design sympa. Puis au-delà de ça, c'est des appareils qu'on servit soit à faire des films de famille par des amateurs, soit qui ont servi dans l'industrie du cinéma. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est regarder les films. J'ai un côté un peu voyeur. J'achète beaucoup de films Super 8 de famille. J'ai fait une petite découverte à Lille, à la braderie, en septembre dernier. J'ai acheté quelques bobines en 8 mm, filmées en Malaisie en 1937, 38, 39, dont deux bobines en couleur, ce qui est extrêmement rare, des films couleur de cette période-là. Sans doute filmées par un Anglais, un militaire anglais, en poste en Malaisie. Il y a juste des images qui sont extraordinaires. Sur une de ces bobines, il y a un nouvel an chinois. Donc, c'est ces grands dragons en papier qui dansent donc dans une rue d'une ville malaisienne. Les deux films en couleur qui sont de cette série-là sont vraiment très très beaux. Il y a aussi un peu de poésie. Puis il y a l'idée, oui, il y a l'idée que sans doute ces films qui ont été faits il y a 30, 40, 50, peut-être 70 ans valent encore le coup d'être vus. Il y a vraiment parfois des très belles choses, des moments de poésie, et y compris dans les films de famille.
Alors, tu parlais de pré-cinéma. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Quelle est ta définition du pré-cinéma?
Alors, le pré-cinéma, ce sont les techniques de projection qui viennent donc avant le cinéma, donc avant 1896, et qui s'appuient à peu près sur une technique à peu près identique à chaque fois. C'est une lanterne, donc quelque chose qui produit la lumière, un couloir de projection, donc un objectif qui guide la lumière vers un mur. Donc c'est une projection, et avec une image sur un support, en général, c'est une plaque de verre, au départ des lanternes magiques. Les techniques de pré-cinéma sont les techniques qui amènent au cinéma, en développement, tout au long du 19e siècle, essentiellement, les techniques de projection.
Et toi, personnellement, tu trouves ça plus intéressant que le cinéma moderne, ou finalement c'est juste différent, ça n'a rien à voir?
On est à peu près sur le même principe, on a une projection avec de la lumière, et quel que soit le support, on a une projection. La différence entre le cinéma et la lanterne magique, c'est le mouvement. C'est quand même le cinéma, il y a l'illusion du mouvement qu'on n'a pas avec une lanterne magique. Même s'il y a des plaques animées, ce qu'on appelle des plaques animées pour les lanternes magiques, qui permettent d'avoir deux ou trois mouvements maximum. Donc c'est pas la même chose, on n'est pas du tout dans le même univers. Les lanternes magiques, elles ont été inventées au XVIIe siècle. On est plus dans l'illusion, dans quelque chose de plus poétique peut-être, que on est sur des plaques de verre peintes à la main. C'est pas le même univers du tout que le cinéma. Je dirais pas que c'est mieux. C'est compliqué de faire un spectacle avec des lanternes magiques, en fait. Il y en a eu au 19e siècle. Recréer aujourd'hui un spectacle avec que des lanternes magiques, ça peut se faire. Je ne sais pas si un jour je me lancerai là-dedans, mais les œuvres cinématographiques sont plus achevées, en quelque sorte, qu'aujourd'hui. On a des films qui durent 2 heures. Un spectacle de lanternes magiques, moi, quand je fais une projection au magasin, ça dure 5 minutes maximum.
Nous sommes toujours avec Alain et Simon de la boutique et galerie L'Œil Écoute, rue Paul Doumer à Arras. Ils organisent en ce mois de mai une exposition Cinéma et photo s'expose.
Ce mois-ci, donc on a décidé avec Alain de réaliser un mois autour du cinéma et de la photo à L'Œil Écoute. Donc il va y avoir une exposition dans notre magasin, mais également donc dans cette exposition, on pourra retrouver des projecteurs de cinéma, des caméras, des caméras Super 8, des lanternes magiques, des appareils photo, mais également pas mal d'ateliers autour de la photo, notamment des ateliers sur la photo stéréoscopique, sur le photogramme et le cyanotype. On souhaite aussi faire des projections.
Alors, des projections variées. On commence par des petits films des années 30. Des films muets en noir et blanc. Mais l'intérêt, c'est qu'on projette avec des projecteurs d'époque. Ça, c'est cool. Donc, on projette par exemple avec un projecteur pâté des années 30, qui est un format 9,5 mm, qui est un format un peu particulier. C'est vraiment, j'allais dire, familial. La boutique, c'est pas un cinéma. Donc, c'est une sorte de projection privée. C'est les coussins par terre. On vient avec des pop-corns si on veut, un peu de boisson. Mais c'est pas une vraie projection comme au cinéma. Puis d'avoir là, c'est gratuit. Donc, c'est montrer à la fois des projecteurs d'époque et des films qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a un soir où on fait des projections de documentaires. On a un documentaire sur le système volcanique en Islande, sur les îles australes françaises, Kerguelen et Crozet. On a un documentaire sur le Sahara. On a un film amateur des années 30 d'un magicien qui fait des tours de magie, donc c'est une sorte de documentaire amateur. On a une soirée spéciale foot pour les aficionados de foot vintage. Donc là, on projettera des films de matchs de foot de Coupe du Monde de 66 à 78, si je me souviens bien. Et on a une soirée dessin animé. Et on termine par un... On ne peut pas dire quoi encore, on verra. Mais un film en Super 8, mais assez long, qui durera plus de 2h30. Sans doute une fiction, il faut encore qu'on vérifie la question des droits... que c'est assez compliqué de projeter des films, même gratuitement, dans un espace public.
Pour qu'on sache un petit peu plus où on tombe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est les termes stéréoscopique, cyanotype, tout ça? Est-ce que c'est le sujet de certains ateliers, du coup?
Alors, l'image stéréoscopique, c'est pas compliqué, c'est l'image en 3D, c'est l'image en relief. Et c'est un dispositif qui a été inventé au milieu du 19e siècle, voilà, vers 1850. On a déjà des photos, plutôt des dessins, en fait. Au tout début, c'est plutôt des dessins en relief. Donc par un système qui fait que votre œil droit ne voit qu'une image, votre œil gauche voit la même image mais séparément, et votre cerveau superpose les deux images et donc crée du relief. Et donc on a des photos en relief, ici dans la boutique on en a plein, on a plusieurs centaines voire milliers d'exemplaires. Et donc c'est un mode de vision qui a été très à la mode des années 1850 aux années 1930. Et par exemple j'ai une photo de Notre-Dame qui est intéressante où on voit la flèche en construction en 1860. Donc c'est à la fois documentaire, il y a quelques photos plutôt humoristiques, caricaturales, des caricatures en relief, des petites scènes de vie. Et puis il y a des objets étranges, il y a par exemple des souvenirs d'opéra. Donc les gens achetaient à la sortie d'un spectacle, des photos en 3D. Donc c'est des souvenirs en fait qu'on gardait d'un spectacle. Donc on a tout ça ici, on montre à travers différents appareils, donc avec des visionneuses. Et ici, on a soit des visionneuses, donc on va dire professionnelles qu'on utilisait dans des lieux publics, soit des visionneuses individuelles. Mais ça, on l'explique dans un atelier ici.
Et justement, c'est des ateliers pratiques, on repart avec des objets, on crée des choses.
La stéréoscopie, on repart juste avec des souvenirs. L'atelier pré-cinéma, on fabrique un petit objet qui travaille sur la persistance rétinienne.
Il y a un atelier cyanotype aussi, non?
Oui. Alors là, cyanotype, on repart avec quelque chose, effectivement. Oui. Mais là, c'est un atelier payant, parce que c'est une intervenante qui vient d'Amiens. Donc un cyanotype, c'est un procédé, encore une fois, qui date du milieu du 19e et qui permet de faire de la photo sans appareil photo. En fait, c'est du papier qui est imprégné d'un produit photosensible et on pose dessus, on fait une composition avec par exemple des fleurs ou des objets. On l'expose au soleil et ensuite on va tremper ce papier dans un bain d'eau et on va avoir l'objet qui va être révélé, en fait, le négatif va être révélé sur le papier. On dit cyanotype parce que le papier est bleu.
J'ai une dernière question. Quel avenir vous imaginez pour cette galerie boutique?
De continuer, je pense, sur cette thématique-là de galerie et à la fois boutique. Après, faut qu'on continue à avoir une activité pérenne parce que on n'est pas une association, donc on n'est pas subventionné. On subventionne un peu par nous-mêmes, quoi. Donc voilà, mais ça, je pense que l'objectif, ouais, c'est qu'à la longue, ça devienne une galerie. De curiosité, mais aussi peut-être une galerie d'art, d'amener des choses nouvelles et au cœur du quartier des arts d'Arras, dans le but de revaloriser ce quartier-là et d'amener, oui, un peu de fraîcheur, un peu de modernité,
ouais,
et d'art,
peut-être.
De nouveauté.
Et en développant, donc là, il y a ce qu'on fait à l'intérieur du lieu, mais il y a aussi ce qu'on veut faire à l'extérieur. On a envie de développer les ateliers dans le milieu scolaire. Mais pas que le milieu scolaire, les centres culturels, les centres sociaux, l'éducation périscolaire, vers les personnes âgées. Bon. Donc on essaie de développer des activités extérieures, c'est pas simple, ça demande un peu de temps, d'énergie. Donc l'avenir, c'est qu'on arrive à vendre suffisamment pour, à côté, pour en faire des activités en fait, qui ne nous rapportent pas d'argent. L'exposition, par exemple, est gratuite. Donc, et si on demande une participation pour certaines activités, c'est pour rémunérer en fait les intervenants qui viennent parfois de loin, enfin de loin, d'Amiens par exemple. Mais sinon, le but, ouais, c'est vraiment de tenter d'équilibrer le modèle économique, quoi. C'est avoir suffisamment d'argent grâce au magasin pour faire vivre des expos.
profiter de l'exposition Cinéma et Photos s'expose, vous pouvez vous rendre directement sur place à la boutique et galerie L'Œil Écoute au 19 rue Paul Doumer à Arras et vous découvrirez les passionnés Alain Bessa et Simon Valin. Pour plus d'informations, direction leurs réseaux sociaux Facebook et Instagram.